Vous aurez compris dans la dernière vidéo consacrée aux parents, à l'adulte et à l'enfant en nous, que lorsque nous disons je, il y a une question à se poser sur qui est ce je? Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui pense? Je dois faire ceci. Je rêve de faire cela. Je regarde l'état de mon compte bancaire pour savoir si je peux faire telle ou telle dépense, etc. Bien sûr, on peut se dire que savoir quel est le je au pouvoir n'a pas une grosse importance. Et effectivement, tant que nous n'avons pas de problème, savoir qui dirige à l'intérieur de nous n'est pas le plus urgent. Là où ça commence à devenir une vraie question, c'est lorsque nous avons un problème ou un symptôme. En effet, suivant le diagnostic des forces en présence à l'intérieur de nous, le choix d'une solution pertinente en découlera. Dans ce système interne qui est le nôtre, si l'un des états du moi est trop puissant, nous allons avoir un symptôme. Et nous ne saurons pas comment gérer la situation afin de nous sortir de là si nous n'avons pas perçu clairement les forces en jeu. Je vais vous donner un exemple pour mieux me faire comprendre. Lorsqu'une personne fait des crises de panique, elle commence à sentir de l'angoisse. Puis elle se sent démunie face à cette angoisse qui monte. Elle a de plus en plus peur d'être débordée. Sa panique augmente. Alors, elle commence à avoir l'idée qu'elle va mourir, qu'elle ne peut plus respirer, que son cœur bat la chamade, à tout rompre. Elle finit parfois par tomber sur place en pleine rue, par exemple, et on appelle le SAMU. Elle va généralement repartir avec une prescription d'anxiolytique, parfois assortie d'antidépresseurs. Et ceci jusqu'à la prochaine arrivée en fanfare, aux urgences, lors de la crise de panique suivante. Vu de l'extérieur, cela paraît assez inquiétant, et pour la personne elle-même, c'est très dur à vivre. Cela lui donne l'impression d'être de plus en plus sans défense, perpétuellement menacée par la crise d'angoisse suivante. En fait, dans mon cabinet, c'est le genre de choses qui se règlent en quelques séances, quitte à être travaillé autrement ensuite. Et je vais vous expliquer comment je fais. La représentation de ce qui se passe en termes datés peut être la suivante. L'état du moi enfant est très puissamment installé et l'état du moi parent est très faible, même si l'adulte reste fonctionnel. En somme, ce serait comme dans une famille dans laquelle les hurlements de l'enfant, de plus en plus apeurés, ne seraient pas contenus par les attitudes adéquates du parent. Si l'enfant a très peur et que le parent est fonctionnel, il va d'abord calmer l'enfant et le contenir, quitte à être un peu ferme si c'est nécessaire. Puis, une fois que l'enfant sera un peu calmé, l'adulte discutera avec lui pour lui donner les points objectifs de repérage. « Non, tu vois, sous ton lit et dans la chambre, il n'y a aucun monstre. Arrête de crier, regardons ensemble. » Dans la configuration attaque de panique, le parent est incapable de prendre fortement et fermement sa place de parent. Place que j'appellerais une bienveillance inflexible. Une bienveillance qui comprend que l'enfant a peur et qui prend à cœur de le calmer, mais aussi qui inflexiblement refuse que ce soit lui qui dirige la famille avec ses peurs infondées. La prescription d'anxiolytique cherche à assommer les peurs de l'enfant, afin qu'il arrête d'avoir peur. Mais dès que ceux-ci ne font plus d'effet, la peur reprend, et avec elle, les cris de l'enfant, très puissants. La solution se trouve donc dans une prise en charge de l'enfant par le parent et l'adulte. Concrètement, cela va passer par deux actions. Premièrement, observer, quand l'angoisse commence à poindre. Travail de l'adulte objectif. Au besoin, la personne peut noter sur un papier les moments où ça commence et la façon dont ça se déroule. Deuxièmement, refuser activement la surenchère mentale habituelle, et là, le parent est appelé à la rescousse, pour être très ferme là-dessus. Ainsi, l'angoisse initiale est-elle réduite à sa petite survenue? Oui, tiens, il y a cette angoisse qui commence à se manifester. Voyons comment c'est, à quel endroit de mon corps ça commence, combien de temps ça dure, je vais chronométrer, comme me l'a suggéré le thérapeute, etc., etc. Et dès que le mental cherche à s'en emparer pour en faire une gigantesque mousse anxiogène comme d'habitude, dans le style je vais mourir, le parent stoppe cela activement. Je refuse les pensées affolantes, inutiles qui viennent se surajouter à la petite angoisse naissante. Le parent et l'adulte, renforcés et autorisés par le thérapeute, prennent en main la situation. La famille intérieure redevient équilibrée et rassurante. Je donne souvent la comparaison suivante à la personne. Imaginez que votre début d'angoisse, c'est comme un début de mal de tête. Est-ce qu'on va tout arrêter et aller au SAMU parce qu'on a un début de mal de tête? Non. On constate ce mal de tête et on continue à faire ce qu'on doit faire. Sans plus s'y attarder, sans en faire un signe de début de cancer au cerveau foudroyant. Vous aurez compris que l'équilibre de notre famille interne est la clé de beaucoup de situations. Et que chaque situation déséquilibrée dans le pouvoir entre les trois instances nécessite un rééquilibrage afin de faire disparaître les encombrants symptômes qui commencent à devenir pesants. Mais, et c'est l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui, si la structure du PAE reste une colonne vertébrale, toujours utile à comprendre, il y a aussi de très nombreuses parties qui sont à l'œuvre en nous, pour diriger notre vie, ce qui n'est pas toujours pour notre meilleure réalisation. À propos de ces très nombreuses parties, on pourrait comparer ce qui nous constitue psychologiquement à ce qui nous constitue physiquement. Je m'explique. La découverte de l'ADN, des chromosomes, des gènes portés par ces chromosomes, a été un virage capital dans la compréhension de ce que nous sommes. Nous avons eu progressivement accès au code génétique, au code source, au logiciel de base grâce auquel tout s'organise et aussi tout s'explique ou presque. Même la façon dont l'environnement a un certain rôle sur l'expression du gène est en cours d'étude et de résolution. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Nous sommes porteurs d'environ 20 à 25 000 gènes, chaque gène étant un donneur d'ordre. Il indique à la cellule quel doit être son rôle dans l'organisme. S'il donne de mauvais ordres, alors c'est la maladie ou le dysfonctionnement. Il transmet ainsi le code de base, celui qui va déterminer la couleur de nos cheveux, de nos yeux, notre groupe sanguin, etc. Tous ces caractères apparents et visibles, ils sont tous issus des ordres du code génétique. Sachant que l'expression de ce code peut malgré tout être plus ou moins influencée par l'environnement. Ainsi, la couleur de fourrure du renard polaire change avec les saisons. Il devient blanc en hiver. Son code génétique inclut donc des ordres qui seront déclenchés par l'environnement ou en lien avec l'environnement. Bref, ces découvertes sont révolutionnaires. Auparavant, on traitait ce qui apparaissait, les symptômes visibles, en ayant une certaine compréhension de leur origine, mais sans avoir véritablement les clés du code. Depuis très peu au regard de l'échelle historique, nous avons accès au code, et ceci changera tout dans le futur. La médecine génétique est appelée à un développement capital, agir sur le code plutôt que traiter les dysfonctions visibles. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est bien ce qui se dessine. Et finissons sur cette remarque intéressante. Tout ça semble très compliqué, et ça l'est effectivement lorsqu'on étudie chacun des milliers de gènes. Mais on a découvert que finalement l'ensemble du code génétique était écrit avec un alphabet de 4 lettres, A, T, C, G. Adénine, thymine, cytosine, guanine. Eh bien, tout ça m'inspire beaucoup concernant notre code source psychologique. Celui qui influencera et expliquera aussi bien tout ce qui se passe en nous, psychologiquement, que ce qui se passe relationnellement dans nos rapports avec le monde et les autres. Les généticiens différencient le phénotype et le génotype. Le phénotype, c'est tout ce qui apparaît, c'est l'ensemble d'un individu comme on le voit. Et le génotype, c'est le code source non visible, sous ce phénotype. Évidemment, ceci évoque au psy que je suis la différence entre deux niveaux de notre vie et de nos comportements que j'ai appelé dans la vidéo numéro 9 de ma chaîne ZooTipsy, l'identité de fonctionnement et l'identité de base, la maison apparente et les fondations non apparentes de cette maison. Bref, ma formation vise à vous donner non seulement la façon de faire avec ce qui apparaît, les symptômes, les relations, le couple, le travail, la réussite, les freins, les émotions, etc., etc., mais aussi à découvrir les rouages du code source sous ce qui apparaît. Ce dernier, dans la manière dont je l'ai étudié et dont je le transmets, est lui aussi constitué d'un alphabet initial de 4 lettres. Pulsion, attachement, polarité, empreinte. Mais pour aujourd'hui, je vais aborder 3 exemples de ces parties internes qui organisent notre vie et qui nous mènent parfois dans des destinées bien souffrantes. Ces 3 exemples sont l'identification, et plus spécialement l'identification à l'agresseur. Ensuite, la question des programmes dont nous sommes porteurs. Enfin, il y a la question des subpersonnalités. Reprenons donc chacun de ces points. L'identification, et plus spécialement l'identification à l'agresseur. Il existe en nous des parties qui ne sont pas vraiment nous, qui sont comme colonisés par des modèles issus de notre histoire personnelle et parfois transgénérationnelle. En somme, « je » est parfois un autre, comme l'a écrit Rimbaud. En voici un exemple avec ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur, c'est-à-dire qu'une partie de nous-mêmes ressemble, sans que nous le voulions, à l'agresseur que nous avons rencontré dans notre histoire d'enfance. Exemple. Si votre mère était très dévalorisante et critique, eh bien, longtemps après être devenue adulte, une partie de vous se comportera envers vous-même comme elle le faisait. Une voix en vous est désormais dévalorisante et critique, mais comme cette voix est à l'intérieur de vous et que tout ce qui se dit à l'intérieur parle au nom de « je », cette voix dit « je suis nul, je suis con, je suis incapable » ou autre joyeuseté de cet ordre. Quand ça dit cela, c'est en fait la mère en vous qui continue son travail de sape. Toutefois, et c'est la difficulté, vous ne la percevez plus comme extérieure à vous-même. Autre exemple. Si vous avez été un enfant battu, vous êtes certain de ne pas faire subir cela à vos enfants parce que vous en avez trop souffert. Et pourtant, parfois, l'impulsion est là. Il arrive que certains enfants battus deviennent des parents batteurs. Ce n'est pas inévitable, puisque dans le PAE, le parent peut s'opposer à l'impulsion qui monte. Mais quand ça arrive, le parent batteur pourra expliquer « je ne peux pas m'en empêcher quand il agace ainsi ». Vous aurez observé que dans cette phrase, il y a « je » qui voudrait bien s'en empêcher et « me » qui passe à l'acte. Conflit entre l'adulte raisonnable que la personne est devenue désormais et les impulsions issues de l'identification à l'agresseur. Ensuite, deuxième point, la question des programmes dont nous sommes porteurs. On peut observer que certaines parties de nous-mêmes sont porteuses d'un modèle issu de notre enfance. Ainsi, il n'est pas rare, lorsque une femme a son premier enfant, qu'elle constate avec surprise et parfois avec beaucoup de désagrément qu'elle ressemble à sa propre mère dans son comportement avec son enfant. Comme si un programme était là, en attente, et se déclenchait alors à ce moment-là, programme qui ne colle pas forcément avec ce que la jeune maman avait souhaité faire avec son enfant. Et on voit que la façon dont se sera déroulée sa propre enfance infiltrera à son insu, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, ce qu'elle va adopter comme comportement maternel, puisque le programme est là. Ne faisons pas de jaloux, c'est identique pour le père. Le programme peut être aussi une loyauté inconsciente qui nous mène. Par exemple, je pense à une personne qui détestait sa cousine, la cousine qui avait réussi dans ses études. Elle était dévorée par la haine et la jalousie. Jusqu'à ce qu'elle découvre que ce conflit avec sa cousine, fille d'une sœur de sa mère, c'était la prolongation de la lutte entre sa mère et sa tante, et qu'elle cherchait ainsi à gagner la guerre que sa mère avait eu l'impression de perdre. En somme, elle n'était plus dans sa vie, mais bien dans la vie de sa mère, colonisée par un conflit issu de la génération précédente. Comme souvent, sa haine n'était obsédante qu'à défaut d'avoir été replacée au bon endroit, c'est-à-dire dans la génération précédente, ce qui lui a permis de sortir ensuite de ce destin obsédant. Bien entendu, sortir d'un destin contraire passe par la compréhension des ficelles qui nourrissent le scénario derrière le rideau rouge du théâtre. Et il est bien important de s'en sortir. Donc, troisième point après l'identification et le programme. Il y a la question des subpersonnalités, c'est-à-dire des différentes parties de nous-mêmes qui ont leur propre valeur et leur propre choix. Je m'explique. Tout d'abord, en créant progressivement notre style, notre caractère, notre façon d'être, nous avons été conduits à choisir entre de multiples paires d'opposés. Par exemple, être plutôt agressif, ou plutôt au contraire diplomate et fluide. Plutôt extraverti, ou plutôt introverti. Affirmé ou souple. Émotif ou contrôlé. Audacieux ou craintif, etc., etc. Les paires d'opposés ont requis la nécessité de donner le pouvoir à une des deux branches qui devient dominante dans notre caractère, et de renier, repousser l'autre partie qui devient refusée et n'a presque plus le droit d'expression. Si je suis contrôlé et impassible, je n'autoriserai pas que l'émotionnel en moi prenne du pouvoir. Si je suis gentil et diplomate, je refuserai les bouffées de colère ou de violence qui pourraient parfois vouloir s'exprimer en moi, etc. Donc pour établir ma cohérence identitaire, il m'a fallu donner la place à certains aspects et refuser activement les aspects contraires. Ces aspects contraires, sous la barre de l'interdit, sont en fait contradictoires avec notre style général, et refusés. Mais lorsque certaines situations viennent les stimuler, alors la pression interne augmente. La lutte intérieure devient forte, et l'angoisse monte. Si la situation perdure, les symptômes liés à ce conflit interne apparaissent de plus en plus. J'ai expliqué tout cela dans la vidéo numéro 5 de la crise de la chaîne YouTube Zouti Psy, La crise une chance. Mais autant il nous a été utile de choisir entre ces aspects contradictoires pour structurer notre personnalité, autant ce cortège d'aspects reniés et refusés devient ensuite source de symptômes, de conflits internes et aussi de perte de pouvoir, puisqu'il y a plein d'aspects, plein de capacités liées à ces aspects que nous n'utilisons pas. Or, tous ces aspects nous seraient très utiles pour disposer d'une palette adaptative importante. Un psychologue américain nommé Al Sieber a étudié les caractéristiques psychologiques de survivants, ceux qui s'en étaient sortis dans des situations extrêmes. Et il a découvert comment ces personnes étaient complexes, capables d'intégrer des capacités contradictoires à l'intérieur d'eux-mêmes et donc de faire appel aux unes et aux autres suivant la situation. Bref, nous nous sommes développés suivant un certain modèle, utile, nécessaire, correspondant à nos valeurs. Mais arrivé à une certaine maturité, il nous faut intégrer d'autres aspects que nous avions refusés jusqu'à présent. C'est ce que Hall et Sidra Stone, dans la lignée de Carl Jung, le psychanalyste, ont appelé les subpersonnalités dominantes et les subpersonnalités reniées. Tous deux ont exploré la puissance énergétique et créative qui se met en place lorsqu'on accepte de reconnaître en nous la tension des opposés. C'est ce que Jung appelle la coincidentia oppositorum. Se tenir consciemment et lucidement entre des parties contradictoires de notre personnalité développe ce qu'ils appellent un ego conscient, une capacité à sortir des pathologies qui nous travaillent et à déboucher sur des relations intime, riche et belle. Quelques opposés en nous sont par exemple entre les parties psychiques porteuses de choix antinomiques, telles que les parties occupées par un des deux objectifs suivants, pouvoir ou vulnérabilité, faire ou ne rien faire, raisonner mentalement ou ressentir, contrôler ou se détendre. Pour faire ce chemin vers le développement d'un ego conscient capable d'entendre les arguments de chacune des parties opposées, la première étape, c'est de reconnaître qu'il existe en nous une partie opposée à notre choix dominant, et que celle-ci possède ses raisons et son utilité. Je vous indiquerai des exercices dans ce sens. C'est extrêmement libérateur. En fait, travailler sur le négatif en nous, sur ce qu'on a refusé et rejeté, c'est-à-dire sur tout ce qui se révèle freinateur et handicapant, c'est très puissant. Si nous ne mettons plus le pied sur le frein, alors la moindre accélération donne des résultats immédiats et visibles. Tandis qu'accélérer à fond, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ne donne rien si nous continuons à avoir en même temps le pied sur notre frein. Pour finir, passons donc à quelques propositions d'action qu'on pourrait envisager lorsqu'une difficulté ou un symptôme nous encombre. Vous pouvez, en reprenant les divers moments de ma vidéo, premièrement vous demander où en est l'équilibre de votre PAE et quel est l'état du moi dont le pouvoir est excessif, trop raisonnable et un peu obsessionnel comme un programme parental, trop détaché de l'émotionnel et des normes nécessaires comme un ordinateur adulte, trop soumis à vos impulsions et une sorte de grand huit émotionnel infantile, premièrement. Deuxièmement, vous demandez quel serait le contraire de ce qui vous semble raisonnable et sain. Et essayez de voir alors le petit point positif qui existe dans cet aspect contraire. Troisièmement, vous demandez si vous n'êtes pas en train de suivre un programme qui n'est pas le vôtre, mais celui de quelqu'un de votre famille d'origine. Je compte bien vous transmettre tous les outils et toutes les connaissances pratiques dont vous aurez besoin pour réaliser votre vie au mieux, mais pour faire tout ce qui vous est nécessaire, mais aussi le code source qui organise tout cela. Mais d'ici là, cher ami de la connaissance psy, je vous propose de me mettre vos commentaires. Ils m'aideront à répondre au mieux à vos attentes et je resterai bien branché là-dessus. Au revoir.